La France des comtes et des princes, la féodalité. Les Normands poursuivent leur raid meurtrier et conquérant. Charles II le Chauve, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à les repousser. Mal remis d'une pleurésie, il meurt, à 54 ans, le 6 octobre 877, après 27 ans de règne, 2 ans après avoir été couronné empereur par le pape. En Francia Occidentalis, en France, c'est Louis II le Bègue qui succède à son père Charles le Chauve. À cette époque, le pouvoir royal est faible. Ce sont les comtes et les princes qui font régner la loi sur leur domaine. C'est le temps de la féodalité. Les pouvoirs locaux s'affirment et s'installent. La sédentarisation des guerriers qui, au temps de Charlemagne, chevauchaient par monts et par veaux en quête de nouvelles terres, va provoquer la montée des individualismes locaux. Louis II le Bègue, qui ne règne que 2 ans, de 877 à 879, poursuit la politique de son père et continue à favoriser les grands vassaux du royaume. Cette politique, adoptée par Charles le Chauve, visait à récompenser l'ordre vénérable des clercs et des nobles laïcs pour leur volonté de travailler ensemble à la paix, à la concorde et à l'amitié. La récompense consistait en la promesse de conserver à chacun de ses collaborateurs du roi, princes, nobles laïcs ou clercs, leur loi propre, telle que l'avaient connue leurs ancêtres. Cela signifiait que le roi ne pouvait révoquer de sa charge qui que ce soit et que cette charge devenait transmissible. Ainsi s'affaiblit le pouvoir central au profit des pouvoirs locaux. Ainsi naît peu à peu l'esprit féodal. Ainsi apparaissent des unités régionales individualisées, avec à leur tête de fortes personnalités, dont la caractéristique portée en sobriquet compose une sorte de compagnonnage de la domination. On trouve ainsi Alain Barbe Torte, Guillaume Tête d'Étoupe, Baudouin Bras de Fer, Guifred le Poilu, etc. Et les régions se précisent, la Gascogne, la Bourgogne, l'Aquitaine, l'Auvergne, la Bretagne, la Catalogne, etc. Le seigneur en son château, ses serfs et ses vassaux. Chaque seigneurie constitue une sorte de petit état dans l'état, avec son seigneur, sa justice, son château. Partout, les petites villes et les villages se hérissent de châteaux de bois, construits sur des mottes naturelles ou élevés par l'abondant charroi de terre. La motte est entourée de fossés. Elle délimite un espace de refuge où se trouve le donjon, parfois en pierre, demeure du seigneur. Les huttes des domestiques, les tentes de ceux qui sont invités. En cas de danger, les paysans accourent avec leur bétail et ce qu'ils peuvent transporter. L'alerte est lancée du haut du donjon par un veilleur qui souffle dans une trompe. Beaucoup de témoignages rapportent que non seulement les hommes accourent dans l'enceinte du château, mais les bêtes en liberté, vaches, moutons, chevaux, aussi, habituées qu'elles sont à trouver un refuge derrière les remparts. Tout le monde se barricade dans l'espace de protection et peut ainsi se préserver des assaillants. Le châtelain assure la protection de tous ceux qui vivent sur ces terres. Il leur garantit la sécurité en réprimant les troubles qui peuvent survenir et en appliquant la justice. Une potence est toujours disponible. C'est en quelque sorte le commissaire, le gendarme et le juge. Mais tout cela n'est pas gratuit et le châtelain perçoit des taxes que ses hommes armés sont chargés de lever.
Bienvenue dans le donjon. À mesure que pour la construction des châteaux, on délaisse le bois pour la pierre, le donjon devient une demeure organisée. Son centre est occupé par une salle où le maître rend la justice, fait dresser de grandes tables sur des tréteaux afin de recevoir ses invités pendant que des jongleurs ou des chanteurs les distraient. Au mur, des tapisseries représentant des épisodes de l'histoire transformés en légendes, des scènes de chasse, de guerre. Le mobilier se compose surtout de bancs, de sièges pliants, de quelques bahuts. Le sol est jonché d'herbes odorantes, afin de combattre les mauvaises odeurs. Après le souper, on passe dans la pièce voisine où se trouve une immense cheminée. Cette pièce est la chambre où trône le grand lit du maître, fermé de rideaux. Dans les pièces situées au-dessus, se trouve le dortoir fermé des filles et celui ouvert des garçons. Le donjon s'entoure de remparts qui forment un carré au coin duquel sont élevées des tours. Ce schéma de base s'enrichit, selon les époques et les régions, de nombreuses variantes. La visite des châteaux de la Loire vous en donnera quelques exemples.
Il existe de multiples catégories de châtelains qui englobent des propriétés allant de quelques champs à d'immenses domaines auxquels sont joints des abbayes. Le terme châtelain ou noble recouvre donc une réalité disparate, mais qui peut cependant être observée afin de rendre compte de ce temps où se développe la féodalité. C'est Charlemagne, bien plus que Charles le Chauve ou Louis le Bègue, qui a créé les conditions nécessaires pour qu'apparaisse la féodalité. Jusqu'au temps de Charlemagne, les invasions se succédaient. Le pillage et la guerre sans cesse déplaçaient les hommes de toutes les origines, nomades provisoires, qui s'installaient ici ou là, étaient chassés, se trouvaient de nouvelles terres libres en abondance. Après Charlemagne et son désir d'ordre et d'organisation, après l'envoi de ses comtes à la tête de ce qui devient des comtés, vaste zone d'influence pour ses compagnons de l'empereur qui oublient parfois qui les a envoyés, tout se fige. Les nomades conquérants deviennent sédentaires. La plupart des terres appartiennent désormais à un propriétaire. Et les frontières sont minces. À l'intérieur de ces zones d'influence, on trouve les trois ordres de la société. Ceux qui font la guerre, les nobles, ceux qui prient, le clergé, et ceux qui travaillent pour les deux catégories précédentes, la grande majorité des habitants. Le chevalier est un cavalier qui, à l'origine, ne possédait que ses armes, son armure et son cheval. Et tout cela lui coûtait fort cher. Le temps passant, des chevaliers se sont installés sur des terres conquises ou offertes, parfois immenses. D'autres, sans doute moins bons gestionnaires, n'ont pas accru leur avoir au point de pouvoir demeurer indépendants. Alors, ils vont demander la protection d'un plus fort, d'un plus riche, au cours d'une cérémonie qui s'appelle l'hommage. Le chevalier qui demande la protection de l'autre s'avance vers son dominant, sans armes, tête nue, vêtu simplement. Son attitude traduit un complet abandon. Il se prosterne, s'agenouille, se fait le plus humble possible, tend ses mains au-dessus de sa tête et les met dans celle de son nouveau maître. Celui-ci le relève et lui donne le baiser qui est une sorte de contrat entre le dominé, le vassal et le dominant, le seigneur ou suzerain.
L'adoubement. Entre 18 et 20 ans, le jeune noble devient chevalier au cours d'une cérémonie appelée l'adoubement. Ce mot vient d'une racine francique signifiant « frapper ». Pourquoi ? Eh bien parce que le jour où il devient chevalier, le postulant reçoit d'abord son épée, puis du plat de la main un grand coup sur la nuque asséné par son parrain. Cette gifle était la seule qu'il ne devait pas rendre. Ensuite, il enfourche son cheval, le lance au galop et doit, d'un seul coup de lance, atteindre la quintaine ou le faquin, sorte de mannequin accroché à un poteau. Malheur à celui qui ratait cette cible. Le mannequin était placé de telle sorte que le jeune maladroit le recevait en pleine tête et se trouvait souvent désarçonné. Oh la honte !
Le vassal reçoit alors du suzerain un fief, qui peut aller du simple champ à un domaine important. C'est ce qu'on appelle une tenure. Le fief devient héréditaire, mais chaque fois qu'il est transmis à la génération suivante, l'hommage doit être renouvelé. Sinon, le fief est confisqué. La tenure est parfois si importante que le vassal prend lui-même des vassaux. Ainsi se crée une solide pyramide au sommet de laquelle se trouve le roi autorité de prestige qui n'a de rôle que dans le domaine de la justice, lorsqu'il lui est demandé d'user de son pouvoir suprême. Le contrat oral entre le vassal et le suzerain prévoit aussi que le premier, en cas de nécessité, doit fournir au second les hommes d'armes qu'il demande. Le vassal paie la rançon du suzerain lorsqu'il est fait prisonnier. Enfin, il doit le service d'host. Qu'est-ce que le service d'host ? Host vient du latin hostis, l'ennemi, puis par extension, l'armée ennemie. Crier l'host, c'est convoquer les vassaux pour aller lutter contre l'ennemi. L'host annonce une guerre importante. La petite guerre entre seigneurs voisins est une chevauchie.
Les deux manches et la belle. À quoi passe-t-on son temps quand la guerre contre le voisin s'interrompt un peu ? À la chasse, à cour ou au faucon. Il faut préserver les récoltes des hardes de sangliers. Il faut aussi traquer le loup malin qui peut entraîner à sa suite les chasseurs sur plus de 10 lieues, près de 50 km, sans interrompre sa fuite pleine de ruses. Autre activité, le tournoi. On l'annonce 15 jours à l'avance, à grands coups de trompe et trompette dans les châteaux. C'est l'esclandre, le tapage annonciateur. Des chevaliers accourent de partout, et c'est la grande fête. Devant les dames qui ont revêtu leurs plus beaux atours, les manches notamment qu'elles offriront aux vainqueurs de chaque partie. Que remporte-t-on lorsqu'on gagne les deux manches d'un tournoi ? Un cheval, une selle, des armes et, parfois, la belle.
Tout pourrait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'organisation pyramidale de la société, exerçant une pression démultipliée dont l'effet conduirait au respect de la liberté de chacun. Point du tout. Les vassaux combattent les vassaux, parfois se retournent contre leurs suzerains, lesquels, comme leurs vassaux, se mettent en selle avec leurs troupes pour aller délimiter les frontières de leurs biens, dès qu'un autre considère que ce sont les siennes. Des récits demeurent de cette époque où des régions convoitées sont dévastées. Massacres, mutilations, pillages, viols sont le fait de ces seigneurs qui prétendent préserver la paix mais qui, dès qu'on touche à une parcelle de ce qu'ils estiment leur propriété, se déchaînent comme des chiens écumant de rage à leur croc découvert. Les cavaliers tuent, incendient, torturent. Où l'idéal chevaleresque ? Où l'humanité ? Où la noblesse ?
Vassal, seigneur, suzerain. Le mot vassal est issu de la langue gauloise ou celtique. On le retrouve en irlandais, en espagnol, en allemand sous des formes parentes. Il signifie le garçon, le valet, celui qui sert un maître. Le mot seigneur vient du latin senior, l'homme âgé, l'ancien. Suzerain a pour origine l'adverbe sus, en ancien français, en haut.
Qui sont ceux qui vivent dans les campagnes, autour des mottes et des châteaux ? Eh bien, ce sont pour la plupart des serfs. Les serfs sont des descendants d'anciens esclaves, soumis aux maîtres par tradition, par habitude. Ils travaillent sans cesse, souvent pour le seigneur ou pour l'abbaye. Ils doivent respecter trois obligations. Le chevage, qui est une redevance en denier. Le serf ne possède presque rien, et les quelques sous qu'il gagne sont donnés au seigneur. Il les lui pose sur la tête. Le fort mariage. Si la fille d'un serf veut se marier en dehors du domaine du maître, elle doit acquitter une somme importante pour le dédommager. Elle le prive d'une paire de bras. Si un serf veut s'installer chez ses beaux-parents, il doit lui aussi donner au seigneur une somme rondelette qu'il ne possède pas, évidemment. Les situations deviennent impossibles à vivre pour les serfs, mais l'essentiel pour le seigneur est de conserver sa main-d'œuvre. Et enfin, le droit de main morte. À la mort d'un serf, selon un moine du XIIe siècle, il était d'usage de couper sa main droite et de la présenter au seigneur, qui pouvait alors prendre tous ses biens. Pour les récupérer, les proches parents devaient verser une somme en rapport avec la valeur, bien maigre, de l'héritage.